The non radio show qui est le titre de cette émission et que je m'appelle Henrik, voilà. Et Serge, on évite de se gratter le nez pendant les pauses musicales.
Pour vous, il n'y a pas de caméra, c'est de la radio.
Je te vois, je te vois manger tes crottes de nez.
Ah, je les mange pas, non. Non, non.
Ah, ok, d'accord. Ok, on revient. Donc, vous donner la parole dans ma grande mansuétude.
Oh, il est gentil. Je crois qu'il est aimable aujourd'hui.
Oui, est-ce que tu as bien le bleu, Yves?
Oui, parce que s'il oui, se rapproche. Bleu. Ah, il ne se rapproche pas de... Voilà, alors, il était un petit peu loin du micro.
D'accord, ok, c'est quand même, j'ai des variations. Non, ok, j'attends, je vais peut-être le...
À mon âge, cher ami, on est loin de tout.
Je ne peux même pas rire.
Pas le droit.
C'est de l'autodérision.
C'est pas mal, quand même. Hein.
Donc, qui veut prendre la parole?
On va donner la parole à Yves.
Ah oui.
Parce qu'il y a pas mal d'articles qu'il a relevé apparemment.
Ah, oui, bah,
c'est un peu le problème. De toute manière, je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a, ne serait-ce que dans un article du Monde, daté du vendredi 8 septembre.
Par le glyphosate.
Pris au hasard. Je vois aide alimentaire, alerte sur tout un secteur. Bon, on en a entendu parler. Ensuite, il y a le logement.
En gros,
un article de Véronique Béda, qui est la PDG du groupe immobilier Nexity.
Yves,
donc,
en
elle
gros,
s'aperçoit que l'État n'a rien fait pour construire et que les gens sont dans la merde.
Yves,
tout le monde sait. Ouais.
Est-ce que je peux résumer ça en quelques mots? Tout est en train de craquer.
Et même les glaciers. Alors, je me demande...
Oh merde, non, pas les glaces.
J'ai... Toujours le même jour, il y a un article, les glaciers sont nos châteaux d'eau à la belle image et nous risquons de les perdre.
Ah, ça, ah tu veux dire les glaciers, les montagnes.
Ça devient embêtant. Vu la chaleur, tu pensais que j'allais parler
Des vrais glaciers.
Le permafrost fond.
Alors, je crois que tu parlais des glaces à lécher.
Comme il fait très chaud, on pourrait commencer par les glaciers, oui.
On aurait dû acheter des glaces, tiens, merde. Voilà. Je suis quand même chaud, là.
Ça donne soif.
Donc, c'est une glaciologue qui s'appelle Heidi Sevestre et qui est membre du Conseil de l'Arctique et d'un programme de sur... Alors, l'Arctique, pour ceux qui sont un peu comme moi... c'est au nord, alors que l'Antarctique, c'est au sud.
Mais okay, elle n'a rien fait, Ségolène, pendant qu'elle était ambassadrice.
Non, mais je n'ai pas envie de m'occuper de...
Des pôles.
Elle n'en souffre pas, elle. Ouais.
Elle fait partie d'un programme de surveillance et d'évaluation des pôles qui s'appelle l'AMAP, en anglais Arctic Monitoring and Assessment Program. Elle a également reçu la médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Elle est également l'autrice de Sentinelle du climat chez HarperCollins, 240 pages, ils mettent 19 euros. Allez, payez-vous ça. Voilà, et donc elle a fait un article de 2 pages, c'est un entretien, où elle résume un peu la situation. Et ma foi, on a envie de dire à Bernard Arnault, puisqu'il a des sous, vous ne pourriez pas surélever Paris d'une soixantaine de mètres, parce que ça nous éviterait d'être inondé. Parce que Paris se situe actuellement à 35 mètres en moyenne de hauteur. Hein. J'ai regardé dans l'arrondissement où j'habite, que je ne citerai pas.
Tu vas être noyé.
Discret, les hauteurs, c'est entre 24 et 60 mètres. Et 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'altitude moyenne à Paris, donc 35 mètres, ils font des moyennes pondérées. Tout le monde sait ce que c'est des moyennes pondérées.
Et non, on ne sait pas.
Ça, c'est le prof qui parle.
Oui, donc quand même. Et donc, il est dit dans cet article, je vais anticiper, mais il est dit dans cet article que si toutes les glaces de l'Antarctique fondent, ce qui va arriver si on ne fait rien, la mer, le niveau de l'eau augmente de, attendez que je retrouve, 58 mètres.
Oh,
à Paris,
c'est sympa. Alors, si on ajoute le Groenland, qui fait 3 fois la taille de la France, ça fait 7 mètres. Et le point de bascule, c'est autour de 1,5 degré pour le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. Bon, enfin bref. Et donc, il n'y a pas que ça. Y a... Bon, ça, c'est les trucs qui risquent de se passer dans un petit moment quand même. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est engagé sur une pente glissante, on n'arrive plus, comme l'illustre à ce tombe de chute dans les Alpes actuellement, à se retenir aux branches. Oui. Et donc... que changent les fontes accélérées des glaces dans l'équilibre climatique global de la planète, on lui demande. Eh bien, elle dit les glaces au capital. On y pense rarement parce que c'est tellement lointain, dans les très hautes montagnes, dans les régions polaires. Mais notre quotidien et notre futur dépendent de la qualité de ces glaces. Elle parle des glaciers, des calottes polaires, du Groenland, de l'Antarctique, mais aussi de toutes les autres glaces. Le permafrost, qui devrait s'appeler le pergélisol en français. Le sol gelé en permanence, que les Russes sont très contents de voir dégeler d'ailleurs, y compris la fonte des glaces en Arctique. Ils sont enchantés parce qu'en fait ça libère une voie de passage pour les bateaux. J'ai lu comme ça un bouquin d'Isabelle Autissier avec j'ai oublié son partenaire, il est pourtant important, où elle raconte les enjeux politiques et économiques de ces trajets, donc qui permettraient un trajet très court entre la Chine finalement et puis l'Europe en passant par le nord. Alors, il y a les glaciers, donc il y a aussi les précipitations, comme la neige. Plus il y a de neige, plus les glaciers sont contents. Et moins il y a de neige, plus ils rétrécissent. Il y a une première raison à l'importance des glaces, c'est le rôle qu'elles jouent dans la stabilisation du climat. 10% des surfaces émergées sur Terre sont recouvertes de glace. Et on a du mal à se présenter ce que ça veut dire, mais ces surfaces blanches agissent un peu comme un miroir. Bon, vous avez compris, ça réfléchit les rayons du soleil en direction de l'espace, donc ça maintient ces espaces et ces montagnes et ces régions polaires froides. Le fait d'avoir des pôles froids et des hautes montagnes froides stabilise le climat partout sur Terre.
Le climat,
oui. Et quand on parle du fait que l'Arctique réagit très vite au dérèglement climatique et que l'Arctique se réchauffe, ça perturbe le climat jusqu'à chez nous, en France. Et donc, conséquence, les glaces qui sont notre plus grande réserve d'eau potable, on pense aux glaciers de l'Himalaya, on parle vraiment d'un château d'eau, ce sont des milliards de personnes qui dépendent de l'eau des glaciers tout au long de l'année, surtout en période de mousson. Il y a évidemment les Alpes, on a tous vu l'image de la mer de glace qui pratiquement n'existe plus, quoi. Plus des stations de ski qui décident de fermer, au moment d'ailleurs où ils créent un BTS pour les gens qui travaillent dans les stations de sport d'hiver, d'ailleurs, ça fait un peu rigoler le contretemps. Donc il y a des glaciers comme le Mont Blanc, certaines régions des Alpes, il va falloir s'habituer à voir ces glaciers rétrécir et disparaître. Donc d'ici la fin du siècle, dans les 70 et 90 prochaines années, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, malgré tous les efforts qui seront mis en place, toutes les annonces, toutes les stratégies des différents pays, aujourd'hui les concentrations de CO2 continuent à augmenter dans l'atmosphère et les glaciers réagissent très vite à ça. Et si on continue ainsi, on va perdre nos châteaux d'eau, leurs ressources d'eau potable dans les Alpes d'ici la fin du siècle, qui ont un impact important pendant l'été. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une sorte de point de non-retour. C'est-à-dire que même si les politiques climatiques étaient sur la bonne trajectoire, il pourrait bien être déjà trop tard pour corriger le tir. Elle dit donc dans cette interview qu'elle pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, nos observations sur le terrain sont pires que les pires modèles de prévision de nos modèles mathématiques. Les choses sont en train vraiment de s'accélérer au point que le rythme de notre science n'est pas assez rapide. Pourquoi parle-t-on beaucoup de points de bascule en ce moment? Parce que les calottes polaires ont un point de bascule que l'on arrive de mieux en mieux à cerner. Si par exemple le Groenland, qui fait trois fois la taille de la France, venait à perdre sa glace, on aurait une montée du niveau des mers d'à peu près 7 mètres, et pour l'Antarctique, on serait sur 58 mètres. Et ce point de bascule est autour de 1,5 degré pour le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc j'abrège. Quand on dit 1,5 ou 2 degrés, c'est la température moyenne à l'écharpe du globe. C'est la trajectoire des accords de Paris pour atteindre la neutralité carbone. C'est ce qu'on nous rabâche à longueur de journée, mais il y a une vraie raison physique derrière ce seuil de température. Ça ne veut pas dire que ce sera la fin du monde, mais que pour nous, en matière d'adaptation, ça nous demandera de faire des efforts considérables parce qu'on ne contrôlera plus ce phénomène. Donc le réchauffement menace aussi le permafrost, on en a parlé un petit peu. Il faut comprendre que dans l'hémisphère nord, 25% de nos terres sont du permafrost, donc tout le temps gelé, ce qui nous rend de nombreux services. C'est un puits de carbone. Jusqu'à maintenant, il a absorbé une partie des émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités. Le permafrost, c'est de la glace, enfin, c'est fait de glace. Donc forcément, quand le thermostat augmente, le permafrost peut se mettre à dégeler. Et donc, tout ce qui est construit dessus, déjà, se déglingue. Ça arrive déjà en Norvège.
Nous, on s'est noyés entre-temps.
D'accord. qu'est-ce que je peux raconter pour changer, pour développer un peu sur un autre...
On l'a compris, c'est la catastrophe.
Attends. Moi, je suis d'accord.
T'es d'accord avec quoi ?
Je suis d'accord qu'effectivement, c'est irréversible. Je pense pas qu'on
puisse...
Mais
non, un jour, il reneigera.
Par exemple, elle prend un exemple dans l'archipel norvégien. Au-delà du cercle polaire qui s'appelle Svalbard, et les conséquences concrètes du réchauffement climatique dans cette région, c'est que normalement ils sont dans un royaume glacé où les terres, 60% des terres sont recouvertes de glace, tout le sol est fait de permafrost, et c'est aujourd'hui l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus rapidement que le reste de la planète. Donc c'est un désert arctique, très sec. D'habitude, quand il y a des chutes de neige pendant l'hiver, ça reste très limité. Or, aujourd'hui, avec l'augmentation des températures, les masses d'air peuvent contenir plus d'humidité. Donc, il y a plus de neige qu'avant. Et donc, il y a des avalanches au cœur de la ville de Longyearbyen, la capitale du Svalbard, qui ont déjà fait des victimes. Donc on peut déjà parler des premières victimes là-bas liées directement au changement climatique.
On a envie de dire, mais éteignez les radiateurs, quoi.
Oui. Il y a également la flore, la faune. La météo est complètement bouleversée, donc. On lui demande, est-ce que vous constatez également des changements dans les Alpes françaises ? Bah oui, quand même, c'est quand même chez nous en France. Et elle répond que complètement, elle ne revient pas de voir à quel point les glaciers sont en train de se retirer de nos Alpes. C'est toute mon enfance, dit-elle, mon adolescence. Pour moi, c'est un peu des membres de la famille qui, petit à petit, s'effilochent et disparaissent. Bon, voilà. La mer de glace est un glacier qui permet de produire de l'hydroélectricité. Les glaciers sont aussi nos châteaux d'eau dans les Alpes. En 2003, pendant la canicule, on avait mesuré que 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers des Alpes. Donc, son débit pourrait être impacté si les glaciers disparaissent. Et donc, à ce moment-là, c'est notre agriculture, l'agriculture, le refroidissement des centrales nucléaires, le tourisme qui s'écroule. Le réchauffement climatique est causé, c'est une question, par l'utilisation du pétrole, du gaz, du charbon. Ces énergies, on en trouvait également en Arctique. Il y a aussi une bataille pour ces ressources pétro-gazières et minières dans ces territoires, donc en Arctique. D'autant qu'avec le réchauffement climatique, un certain nombre de ces ressources peuvent devenir plus facilement accessibles. Alors, effectivement, dans ces régions donc proches du pôle Nord, il y a un énorme marché qu'il faut absolument empêcher de se développer. C'est un énorme marché en matière de ressources en gaz, en pétrole, en charbon. Et si on veut éviter de dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique, il faut surtout pas se lancer dans l'exploitation. Or, les Russes, ils sont très contents que le permafrost dégèle, justement pour exploiter ces trucs.
Non, mais les Russes, ils sont cinglés.
Et vu les excellents rapports qu'on a avec les Russes, on va avoir du mal à parler avec eux pour essayer de les convaincre.
The Russians are crazy.
Donc, il est vrai que ça va être très compliqué, dit-elle, de faire en sorte qu'on ne touche pas à ces réserves, alors qu'elles sont juste ici. Notre travail, c'est justement d'expliquer que ce n'est pas cette vision à court terme qui va nous sauver la mise. Il faut avoir ce courage, cette ambition, ce leadership et dire, ok, on sait qu'il y a des ressources dans l'Arctique, mais on n'y touche pas. Alors, une question, c'est... Est-ce qu'on peut peindre les montagnons blancs? Bon, on va passer rapidement parce que c'est débile et ça ne marche pas. Les bâches blanches, eh ben c'est catastrophiste parce que ça pollue le salon dessous, ça revient très cher, c'est lourd et ça ne marche pas. Donc il y a toute une série de petits trucs gadgets comme ça qu'il ne faut pas s'imaginer pouvoir mettre en œuvre pour empêcher les glaciers de fondre. L'idée de refroidir l'Arctique, par exemple... existe, c'est l'idée de reproduire ce que font les volcans. Quand on a une grosse éruption volcanique très explosive, elle émet des particules jusque dans la stratosphère et les particules bloquent une partie du rayonnement solaire qui arrive sur la Terre. Donc il y en a qui ont eu l'idée géniale
de créer un faux ciel obstruant.
Voilà, de bombarder la stratosphère de particules de façon complètement artificielle pour bloquer une partie du rayonnement. C'est une idée géniale.
Oui, bon, c'est une idée géniale.
Elle commence par rappeler qu'en dessous, il y a 4,5 millions d'habitants dans l'Arctique qui sont dispatchés dans 8 pays. Et donc, elle pose la question, qui sommes-nous pour oser penser à bloquer une partie du rayonnement solaire au-dessus de cette région? Ensuite, il y a le coût que ça représenterait, le fait de mettre le climat sous perfusion, c'est très dangereux parce qu'il suffit d'une instabilité politique, d'une crise financière pour mettre le programme à mal, et le jour où on arrêtera, la Terre risque de se réchauffer très rapidement, de gagner plusieurs degrés en quelques années, avec des conséquences désastreuses. Et donc aujourd'hui, quand elle pense à ces pseudo-solutions, ça l'effraie, car elle a vraiment l'impression qu'on joue aux petits chimistes. Et nous, les scientifiques, savons qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas tout à fait, qui sont liées au climat. Qui sommes-nous pour oser perturber encore plus le système? Enfin, si on essaye de s'intéresser à des solutions qui peuvent être mises en place à un niveau local, que ce soit dans les communes des Alpes françaises ou dans les communautés arctiques, y a-t-il des idées, un arsenal de choses qui peuvent être mises en place pour essayer de limiter les conséquences de la fonte des glaces? Elle répond oui. La question qui se pose d'abord, c'est de savoir comment protéger les ressources en eau que nous avons actuellement. Protéger les eaux humides, les tourbières, toutes ces régions qui sont comme des éponges naturelles qui vont stocker l'eau de fonte des glaciers ou l'eau de pluie, des rivières, et de redistribuer naturellement toute l'année. Essayer d'utiliser moins d'eau, mieux la gérer, c'est essentiel. Enfin, la fin de l'interview, c'est le constat que vous faites sur la situation des glaciers est assez dur. Vous restez relativement optimiste. Qu'est-ce qui vous donne, malgré tout, de l'espoir? Elle sait que les solutions sont déjà là, dit-elle. On a toutes les cartes en main pour aujourd'hui éviter le pire. Elle est convaincue que sur la base de l'action, c'est déjà de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi nos gouvernements veulent mettre en place des régulations, des lois qu'on considère comme contraignantes, alors qu'il y a une vraie raison scientifique derrière. Pour moi, il est très clair que si on arrive à rendre ces connaissances scientifiques accessibles au plus grand nombre, la montagne que l'on a devant nous, on va pouvoir la gravir. Elle est très optimiste, la dame. Bravo.
Moi, je ne comprends pas. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi, je sais qu'il y a eu une grande assemblée citoyenne pour le climat avec plus de 350 personnes. Non, je ne sais plus. Je me mélange dans les chiffres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui. Enric. Tu sais, les personnes qui ont été réunies et qui ont recommandé des solutions. Oui. Et Macron, il a balayé ce truc-là, il n'a pas respecté, il n'a rien fait, quoi. Il aurait dû appliquer toutes les remarques.
Il a fait petit.
Il l'a fait petit, oui, tout à fait. Et c'est inadmissible, quoi. Je veux dire,
voire pas fait, parce que le deuxième point que j'ai, là, c'est un autre truc, et je ne vais pas en parler maintenant, mais qui concerne le logement, ça pointe, en fait, à un déficit d'attention au problème, un déficit d'action. Déficit d'action, tout bêtement.
Mmh. Non, mais c'est que Serge n'a pas compris que Macron, c'est beaucoup de brassage d'air. Alors, il devrait aider à ventiler les glaciers, ce brassage d'air macronien. Mais il n'est pas suffisant.
Il faut le ventiler à l'air froid. Hein,
donc sinon, voilà, si nos auditeurs ne sont pas plombés alors que nous sommes une émission censée les divertir, c'est fait. Voilà. voilà. Musique. Le Post Non Radio Show sur Radio Libertaire. Les gars, vous êtes à l'antenne.
Ben oui, oui.
Oui, oui.
Ouais,
non, on discutait en antenne, justement. Ouais, on discutait écologie, justement.
Oh, vous pouvez pas changer de sujet.
Mais si, on va changer de sujet.
Oh, évidemment, bien sûr. Grâce à Yves.
Grâce à Yves, qui a toujours des articles passionnants à nous faire partager.
Alors, est-ce qu'il va nous parler de Anne Hidalgo et des Jeux Olympiques ?
Ah, je n'ai pas sélectionné l'article, je laisse se débrouiller.
On en parlera une autre fois si vous voulez.
Tu sais qu'on aime bien se foutre de la gueule de Madame Hidalgo.
Écoute,
oui.
Je suis allé en Bretagne récemment.
J'ai
observé comme c'était beau.
C'était beau.
Comme au pied des arbres, il y a des jolis petits murets ronds,
ouais,
très propres,
exactement.
Avec des fleurs dans tous les sens.
Exactement. Les villes et les villages sont propres.
Alors, je sais bien qu'on raconte qu'en Bretagne, il pleut tout le temps,
alors,
voire
beaucoup. C'est
très
vert, c'est très
beau.
Vous
savez pourtant qu'il pleut moins qu'à Nice, hein, mais enfin bon, ça c'est la réputation qu'on lui fait.
Non.
Oui. Ah si, voilà. On aurait dû emmener la brochure.
Et donc
il y a un microclimat dans cette zone.
Il n'y a pas de problème, alors en Bretagne.
Alors, c'est Vraiment, ok, d'accord, c'est une zone, on était dans une zone touristique, il faut le dire.
Ouais.
Donc, il faut quand même en sorte que les touristes qui leur donnent quand même à manger et des sous-sous soient correctement accueillis. C'est ce qu'on a pu constater.
Ah, ouais.
C'est joli, c'est propre, etc.
Et certes, donc, quand on revient
certes
à Paris...
c'est quand même une usine Afrique, mais... Tu reviens à Paris, tu commences par les abords de la capitale, c'est-à-dire la banlieue. Et là, déjà, c'est le choc. T'es en plein quart monde.
C'est plus la même philosophie quant à la façon de gérer
exactement.
Les plantes.
Ah oui, le, comment on pourrait dire le,
alors,
le...
c'est peut-être pas non plus le même climat, donc il y a peut-être des circonstances géographiques qui changent, mais néanmoins, on est quand même un peu interloqué par la différence.
La différence est flagrante.
Parce
quoi.
Que quand on va vers l'Alsace, qui est encore plus à l'est, disons, c'est quand même très fleuri. Donc,
Et là, on est arrivé, en ce qui me concerne, on est pour me déposer, on est arrivé donc vers Ivry. Et là où il y a la Seine, et puis il y a toute une zone où il y a beaucoup d'usines, etc.
C'est bien, là, c'est bien. Oui.
Tout était envahi d'herbes folles, de saleté. C'est, voilà, c'est, tu passes d'une ambiance à une autre, quoi. Oui. Et c'est flagrant, quoi. C'est, et après, je te parle pas. Hein,
surtout qu'à ce moment-là, tu dis Kenavo, tu dis plus...
Ah bah là, tu te dis, merde,
hein,
là, tu dis, hey, merde, Hidalgo, quoi. Putain,
ça ressemble un peu.
Donc bon, c'était pour retirer un peu de poids sur les épaules de Hidalgo.
Oh oui, retire-lui du poids, oui, la pauvre.
Enfin bon.
Elle en est à attaquer l'État pour l'augmentation de la taxe foncière.
Oh là là.
Oh, madame Hidalgo, qui trouve rien de mieux que de... Elle n'était pas au courant.
Bah, c'est-à-dire que sur le fond, ce qui a été supprimé, c'est les impôts, la taxe d'habitation. Donc maintenant, c'est compensé par l'État s'il veut bien mécanisme de compensation. Quand Macron a proposé ça, avant la proposition, il n'était pas en très bonne position. Après la proposition, il était en très bonne position. Donc ça a été l'argument choc qui lui a permis d'être élu. Bon, mais ensuite, ça crée des problèmes, effectivement, parce que. Enfin.
Ouais, enfin tout ça pour un peu.
La taxe d'habitation à Paris, disons, explose un petit peu. Ça plus de 60% d'augmentation. J'ai pas encore reçu ma note, mais enfin, je râlerai quand, comme tout le monde, quand je la recevrai. Ceci dit, ce que je trouvais pas normal à Paris, en tant que Parisien, on va pas dire plus, mais c'est de payer moins cher en taxe d'habitation qu'en taxe foncière. Donc là, bah, je vais être satisfait puisque la taxe d'habitation a disparu.
C'est bien.
Tu peux nous dire la différence entre la taxe d'habitation et la taxe foncière?
Mais en fait, la taxe d'habitation a été payée par tout le monde. À partir du moment où tu habites à un endroit au 1er janvier, tu payes la taxe d'habitation pour cet endroit. Bon, alors le mode de calcul est compliqué apparemment. De même que celui pour le foncier, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne vais pas me lancer là-dedans du tout, je n'ai pas travaillé le sujet, je préfère me taire. Mais la taxe d'habitation a été due par les locataires, éventuellement qu'on pas un rond donc, ou pas beaucoup, et les propriétaires qui sont censés en avoir un peu plus. Mm-hmm. Et la taxe foncière est due... uniquement par les propriétaires.
Donc,
ce qui semble normal de les taxer quand même un minimum, puisque c'est les seuls qui ont du fric. Donc si on veut avoir un peu d'argent public, il faut savoir où le prendre.
Mmh.
Bon, autant le prendre sur la taxe foncière. Alors, il y a l'argument... je ne vais pas rentrer là-dedans.
Donc oui, c'est vrai qu'on compare ce qui pourrait être un peu incomparable de lieux, etc., de politique et philosophie de la gestion d'une ville. Mais quand même...
Impôts fonciers à Paris, ils sont très très légers par rapport ne serait-ce que ce qui se passe dans les banlieues autour de Paris.
On se dit, bon, mais quand même, il y a des choses à épingler.
Parce qu'on parle de...
Là, moi j'en étais toujours à la gestion de la verdure, par exemple. Mmh. C'est quand même flagrant, t'as l'impression que personne ne s'occupe de ces endroits, quoi.
Mmh. Ah si, si.
Ça pousse...
Il y a des mecs qui ont dû prendre quand même...
Je pense qu'un jour, on va passer, les racines des arbres auront explosé les trottoirs, tu vois, ce genre de choses, quoi. Pardon, oui, t'étais sur une autre conversation, excuse-moi.
Ben voilà.
Oui, je t'ai coupé la parole, Yves, pardon.
Oui, j'ai fait un article, mais je ne sais pas si j'ai le temps avant le prochain disque, sur le logement.
Oui, mais ça va être long, alors non.
Parce que moi, j'ai un copain, il disait « les impôts font chier ».
Non, bah, c'est facile, ça.
C'est facile. Oh, je l'ai fait. Ça veut dire qu'il est tard, tu vois. Quand je sors des trucs comme ça, c'est qu'il est vraiment tard.
Il est à peine 22h55. Il est à peine 22h55.
Je fatigue quand même. Ça me donne l'heure.
Ouais, bah, c'est l'heure des vieux. Allez au dodo. Coucher les vieux. Allez, un morceau de musique. Et Yves nous enchante encore.
Alors,
un sujet, ça va être d'un ça va nous divertir, mais alors là.
On aura peut-être des nouvelles de Mylène.
Ah oui, Mylène.
Attention, hein.
Alors Serge nous regarde bizarrement.
Attention.
C'est une araignée, Mylène, non? Ah non, c'est la migale, pardon.
Serge, Mylène.
Oui, Mylène Farmer, ouais.
Oh, peut-être. Pardon, excusez-moi, j'avais pas réalisé.
Mais c'est quand le concert de Mylène?
Le 24 septembre.
Ça se rapproche.
24 septembre 2024.
Aïe. Oh merde, mais pourquoi 2024?
Parce qu'il devait avoir lieu justement cet été. Il devait avoir lieu cet été.
Il y a eu les émeutes.
Voilà, il y a eu les émeutes. Donc il a été reporté puisque la sécurité n'était pas assurée au Stade de France étant donné que les policiers étaient mobilisés pour les émeutes. Voilà.
Mais nous on croyait que c'était en 2023.
Ah, non, 2024. 24 septembre 2024.
Oh là là, il y a un an à couler sur les ponts.
On met tout en veilleuse alors.
Ouais. D'ici là, on aura un empereur à la place d'un président de la République.
Elle va faire un peu plus vieille alors.
Tout va changer.
Oh là là, on a un an à attendre.
Elle va faire un peu plus vieille.
Oh, c'est pour ça qu'il est, c'est pour ça qu'il avait décroché là, Serge. Oui. Mylène quoi? C'est pas maintenant, Mylène. Ok, d'accord.
Oui, on n'y était plus, nous. Hein. On était encore dans le vif.
Nous qui pensions. Nous moquer de toi dans pas longtemps, là, c'est raté, là. Ah merde, il faut attendre un an.
Regarde-le s'il est stoïque, Serge. Super.
Oh.
Post Non-Radio Show, Radio Libertaire. Bah oui.
Ouais. Ouais.
Bah oui, qu'est-ce qui se passe?
Non. Bah, moi, j'ai quelque chose à rajouter.
Ouais.
À propos de Mylène Farmer. Donc,
voilà.
Elle a retrouvé ses esprits.
Je rectifie. Donc, elle refait ses concerts qui devaient avoir lieu donc, cette année, les 27 et 28 septembre en 2024. Et elle a rajouté en plus une date, le 1er octobre. Ça, c'est au Stade de France.
Voilà. Ah, ben, on est heureux.
Et moi, j'irai au spectacle du 27 septembre.
Voilà. Ah, ok, d'accord. Bah, super. Merci de nous tenir informés.
Je rectifie mes erreurs.
Merci de nous tenir informés.
On est très professionnels.
Ouais, surtout quand il s'agit de Mylène. Hein, alors là. Ok.
Encore.
Alors, toujours dans la série.
On parle logement, je crois, c'est ça, Yves.
Pour vivre, il faut avoir de l'eau déjà, donc c'est le premier épisode. Deuxième épisode, il faut arriver à se loger. Et donc, il y a deux articles. On va commencer par celui de Madame Véronique Bédag, qui est la PDG du groupe immobilier Next City, donc pas n'importe qui, et qui déplore l'indifférence de l'exécutif. Et c'est à cause de ces arguments que j'ai envie de lire cet article, en plus des faits que tout le monde connaît de façon un peu dispersée et qui sont rassemblés dans les deux articles. C'est l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon. Elle a été pressentie pour être première ministre au printemps 2022. Elle a refusé. Et elle ne cache pas que la gravité de la situation y fustige l'immobilisme du pouvoir actuel. Donc, Next City, c'est l'un des plus importants groupes français d'immobilier. Et donc, elle analyse la crise. Elle dit, c'est pas la première fois que vous sonnez l'alarme sur la crise du logement.
L'alarme.
Mais celle-ci s'aggrave. Quelle est la nature de cette crise? Elle dit, j'ai alerté dès le mois d'octobre 2022. J'adresse à ce moment-là une lettre au président de la République, au Premier ministre, aux ministres concernés. Je les mets en garde sur ce qui est en train d'arriver maintenant. Une restriction majeure des crédits immobiliers avec des prêts en recul de 45% sur un an. Dans n'importe quelle industrie, dit-elle, où les clients se voient coupés de leurs moyens de paiement dans une telle proportion, quelqu'un regarderait ce qui se passe. On alerte aussi sur les conséquences. Il y aura moins de production de logements neufs. Raréfaction des possibilités de location. Au bout du compte, les plus modestes, les plus fragiles vont se trouver dehors. Il y a en ce moment 2000 enfants à la rue en France, et ça me choque, dit-elle. Et elle insiste en disant « L'histoire était écrite, elle a eu lieu. C'est la chronique d'une crise annoncée et elle est violente. Les chiffres sont encore pires que ce qu'on pouvait anticiper. Entre avril 2022 et mars, les réservations de logements neufs ont chuté de 45% et c'est encore plus fort pour les maisons individuelles. Il y a 13% de logements mis en chantier en moins. Le mouvement va s'accentuer avec un effet sur l'emploi et dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Dans d'autres métiers de promoteurs, on voit à l'avance ce qui va se produire. Nous n'avons pas été entendus. Il fallait traiter la crise alors qu'elle était en train de se nouer et non pas attendre qu'elle se soit installée parce que alors ça coûte beaucoup plus cher. » On lui pose la question comment la situation a évolué en cette rentrée. Alors elle dit la production de crédit ralentit, le logement neuf met de l'huile dans les rouages et permet un mouvement. Pourtant on dissuade l'investissement immobilier qui n'est pas traité à égalité avec les autres placements. Il est surtaxé. L'avantage Pinel qui permettait aux particuliers d'acquérir des appartements neufs pour les louer à des locataires modestes et de bénéficier d'une réduction de pot a été supprimé. Remarquez, moi, cette réduction d'impôts, je ne vois pas pourquoi on leur donnerait, mais enfin bon. Donc, il y aura moins de mouvements dans le parc ancien en raison de la hausse des taux, mais aussi parce que l'option du neuf n'existe quasiment plus. Le logement social est également grippé. La crise du neuf a un impact sur le parc. Dans la production globale de Next City, 30% sont des logements sociaux. Donc quand j'arrête de produire, j'entraîne avec moi le logement social. Il manque aussi des logements pour les étudiants. Dans un autre article, j'ai vu la façon dont ils étaient expulsés par le Crous en un quart d'heure, tout mettre toutes les affaires dehors. Au moins pour ceux dont ils ont pris l'opinion. Une étude d'opinion vient de montrer que 12% des étudiants renoncent à une formation parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Il a été demandé aux promoteurs de produire beaucoup moins de studios et de deux pièces parce que les maires préfèrent les grands appartements familiaux. Or, les petites surfaces sont très demandées par les couples séparés. Ces gens-là sont salariés et donc prioritaires sur les étudiants sur ces produits. Donc, les jeunes sont envoyés vers les résidences étudiantes qui ne sont pas suffisantes.
Qui sont saturées.
Les nôtres étaient complètes dès fin juillet. Voilà. Combien de temps la crise va durer? Ça peut durer longtemps. Concernant le crédit immobilier, on peut espérer une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Avec l'ajustement du taux d'usure, les banques vont recommencer à prêter. Les optimistes nous disent que début 2024, nous pouvons espérer la reprise du flux de crédit immobilier. Mais le temps de l'immobilier est un temps long. Et les Français vont se sentir bloqués, sans possibilité de mobilité. Les plus modestes vont devoir renoncer à la petite maison qu'ils voulaient s'offrir parce qu'il n'y a plus de prêt à taux zéro. Cette crise-là va se durcir. Il va y avoir un vrai sentiment de frustration parmi les Français. Ceux qui ont les moyens se logeront, mais les jeunes, les nouveaux entrants ne peuvent plus acheter et ont du mal à trouver une location. Les étudiants rentrent chez les parents et pour eux, c'est pas un progrès. On traite pas bien nos jeunes. La crise va-t-elle se régler par une chute des prix? Aux États-Unis, les prix de l'immobilier augmentent alors que les taux sont plus élevés. Donc, ça veut dire qu'il faut que c'est pas parce que les taux en France augmentent que il y a une crise. Et ici aussi, le marché est en déséquilibre, on manque de logements et je ne vois donc pas comment les prix pourraient baisser de 20%, le chiffre souvent avancé par les experts. En revanche, un autre phénomène se produit. Auparavant, la valeur d'un bien était liée à sa localisation. Désormais, s'ajoute le facteur de la qualité énergétique et dans un marché où la plupart des passoires thermiques des passoires thermiques est très élevée, cela peut expliquer la baisse actuelle des prix. Alors comment les ménages pourront-ils alors acquérir un logement ou simplement se loger? Eh bien, comme aux États-Unis, les ménages vont consacrer une part plus importante de leur budget aux dépenses immobilières et la hausse actuelle des salaires en France va les aider. Il n'est pas d'ailleurs impossible que les taux redescendent. Quand on pense qu'il y a une banque centrale qui est chargée de maîtriser l'inflation, tous ces petits discours font quand même rigoler. Cette crise est-elle comparable aux précédentes, notamment à celle des années 90? Alors là encore, un paragraphe particulièrement au coup de pied à l'âne. Ce qui change aujourd'hui, c'est la relative indifférence ou le manque de moyens de la sphère publique. L'exécutif continue à dire qu'il faut faire des économies sur le logement. Ça, c'est inédit dans un moment de crise très rapide. Le gouvernement passe son chemin. En 2008, on a réglé la situation avec le dispositif Cellier, un avantage fiscal important et des achats massifs par la Caisse des dépôts d'appartements neufs qui ne trouvaient pas preneurs. Là, on nous explique que les particuliers qui investissent dans l'immobilier sont déjà dans un paradis fiscal et qu'il faut surtout ne rien faire. Heureusement, Action Logement, le collecteur de la participation des entreprises à l'effort de logement, fait son job en se substituant aux acheteurs qui n'ont pas pu aller au bout de leur projet d'acquisition dans le neuf. Alors, qui a encore accès à la propriété, lui demande-t-on, en France? Les ménages qui ont beaucoup de moyens. Ça, on savait. Le recentrage du PTZ sur les zones les plus tendues est en réalité une coquille vide, car les plus modestes n'ont plus accès à l'immobilier dans ces territoires les plus attractifs. Ces prêts sociaux seraient utiles dans les zones non tendues, donc il n'y aura plus de PTZ, c'est le principe de l'économie budgétaire. Là, il fait de l'humour, la dame. Pourquoi le Conseil national de la refondation, CNR, consacré au logement, cette grande concertation des professionnels proposée par le gouvernement, s'est-il révélé décevant? Il y a, dans la sphère publique, l'idée qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de logements, compte tenu des projections démographiques, du nombre de logements vacants et des résidences secondaires. Mais soyons clairs, dans ce cas-là, et disons qu'on les interdit, les résidences secondaires. Et puis, les vacances de longue durée ne se situent pas dans les zones qui attirent les populations et les emplois. Et c'est bien, il faudra les rénover, car je mets quiconque au défi d'y installer sa famille. Nous avons donc un différend sur le diagnostic. Par ailleurs, il y a un problème financier. L'État est très endetté, le coût de la dette devient très élevé, donc le gouvernement est dans une équation budgétaire très compliquée, scrutée par les agences de notation, et durant le CNR, Elisabeth Borne a cependant reconnu qu'il y avait un besoin de logement, et elle a fait des promesses. Les préfets devaient engager un dialogue avec les maires sur les besoins. Il allait falloir ajouter des villes à la liste de celles accessibles au logement intermédiaire en lien avec la politique de réindustrialisation. Et il fallait revoir la fiscalité du parc locatif pour le prochain projet de loi de finances. J'attends de voir, dit-elle. Il ne s'est toujours rien passé. La première ministre ne s'est pas engagée sur beaucoup de choses, mais ce sur quoi elle s'est engagée, il faut le faire. Comment revoir la fiscalité locative ? Eh bien, elle dit, nous avons aujourd'hui un système invraisemblable. Si vous êtes un investisseur, soit vous logez une famille et vous prenez une fiscalité en pleine figure, soit vous logez pour des séjours de courte durée des gens qui payent à l'avance, et ça vous rapporte plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cet article ? Il y a un nouveau ministre du logement qui s'appelle Patrice Vergriet, qui connaît bien le secteur, mais Madame Bédague dit que, comme d'habitude, son action sera le résultat d'arbitrage interministériel. Or, Bercy considère que le logement, c'est beaucoup d'argent dépensé. C'est comme les pauvres, dans la bouche de Macron, ça coûte un fric de dingue. Et donc, en réalité, la fiscalité du logement rapporte beaucoup à l'État et elle augmente. On peut parler de matraquage fiscal. La taxe foncière va augmenter de plus de 10%, et c'est normal. C'est la seule ressource qu'on a laissée aux collectivités. Autrefois, la taxe foncière, vous la regardiez d'un coin de l'œil lorsque vous achetez un bien. Maintenant, il faut presque l'ajouter à votre taux d'emprunt. Bon, là, elle s'énerve un peu, disons. Voilà. Chez Nexity, la réelle... Bon, voilà, j'ai envie d'arrêter ça sur ce qu'elle raconte.
Oh ben, nous, on était largués. Hein.
Alors, autrement, il y a un article, cette fois-ci, qui est un éditorial du Monde, là, où c'est également saignant, mais peut-être moins argumenté que ce qu'elle raconte. Mais enfin, l'auteur, qui n'est pas nommé, dit « Par manque de volontarisme politique, la France, quelle que soit la majorité au pouvoir, s'est accommodée à ne pas construire suffisamment pour accompagner ces transformations. » Transformations qui sont les mouvements de fond de la société française, l'augmentation de la population, la décohabitation des ménages, l'explosion du nombre d'étudiants, la concentration de la demande dans les zones les plus attractives. Voilà.
En Bretagne, ça construit à tout va. Hein.
Ouais. Quelle que soit la majorité au pouvoir.
On a vu plein de chantiers.
Donc, on n'a pas assez construit pour accompagner cette transformation. Comme dans l'éducation ou la santé, la procrastination se paye aujourd'hui. Échec collectif. Les maires sont les mieux placés pour répondre aux besoins, mais ils font primer la quiétude de leurs administrés sur l'intérêt général, qui réclamerait de construire davantage pour accueillir de nouvelles populations. Mmh. La rareté du foncier devrait inciter à construire en hauteur pour faire baisser les coûts de logement, mais la France continue à privilégier l'étalement urbain au détriment de la densification.
Oui.
Quant au gouvernement, on peut se demander si c'était le meilleur moment pour limiter l'accès aux prêts au taux zéro, sans parler des atermoiements incompréhensibles pour aligner la fiscalité des meublés tout risqués sur celle de l'allocation classique.
Voilà. Ça aussi, on l'a remarqué. Hein, voilà. En Bretagne, alors je reviens toujours avec la Bretagne, on a trouvé des petites villes extrêmement étendues.
Oui.
Ah, très grandes. Très étendues. Hein. Alors, c'est que des maisons. T'as pas une seule tour, il a fallu qu'on aille, je crois, à Lorient Ou à Port-Louis, non. Port-Louis, c'était...
À Vannes aussi, il y a des immeubles un peu plus élevés.
Oui, mais après...
À Lorient, qui a été rasé pendant la guerre, il y a effectivement quelques tours.
À Port-Louis également, il y a des petits immeubles. Mais alors, d'autres endroits, ce sont vraiment c'est de très grandes étendues de maisons individuelles. Mais... C'est très joli, certes. Hein, je veux dire, c'est très chouette. Elles se ressemblent toutes, les maisons. Bon, quelquefois, elles n'ont pas vraiment de personnalité. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, elles sont fleuries, machin. Donc, tu traverses une espèce de... des espèces d'immenses banlieues, en fait, et sans te rendre compte qu'en fait, c'est quasiment le... c'est ça, la ville, quoi, en fait.
Mais par contre, avec la crise de l'énergie et les prix de l'essence, etc., ce type de construction, c'est un non-sens complet. Ils vont faire comment, les gens, si un jour, il n'y a plus d'essence, quoi, et plus d'électricité, ou je ne sais pas.
Ah oui, monsieur, là...
Ça a un coût. Le fait d'habiter dans une ville très étendue comme ça, il faut aller au supermarché pour faire les courses, pour prendre la bagnole ou le bus éventuellement quand il y en a. Il faut chauffer le bâtiment parce que bien qu'il y ait des moyens pour isoler davantage ces maisons individuelles, si on ne fait pas, ça coûte une fortune que de chauffer une maison. Enfin bon, il y a un tas de problèmes qui se créent à cause de ce rêve donc, qu'on a mis dans la tête des Français à un moment. Chacun est petit propriétaire de sa maison individuelle. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est agréable. Est-ce que c'est gérable ? Eh bien, attendons de voir.
Moi, j'ai l'impression que dans le domaine, effectivement, de la construction logement, il y en a peut-être qui se frottent les mains parce qu'ils rendent le logement assez rare, donc plus cher, donc font beaucoup plus de profits, de bénéfices. Est-ce que ça pourrait pas être ça, en tout cas, la raison pour laquelle on ne construit pas assez de logements, certainement peut-être pour des raisons purement financières?
Ben, en Bretagne, on a vu qu'on en construisait pas mal. Par exemple, dans le coin de Cancale, il y a eu une artificialisation des terres, avant des terres cultivables, donc qui sont maintenant des terres où il y a des zones de pavillons. Alors, qui achète ces pavillons ? C'est pas forcément les Parisiens, ça peut être les habitants de Cancale qui vont acheter pour faire de la location courte durée pendant les vacances, histoire de se faire un peu d'argent, parce qu'à raison de 500 euros par semaine minimum pour un studio, ça fait quand même 2000 euros dans le mois, multiplié par 3 mois en faisant un minimum, donc juin, juillet, août. Bon, vous faites le calcul.
Oui, mais je trouve qu'il y a effectivement... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une vraie spéculation financière autour du logement. Moi, c'est mon impression, en tout cas.
Oui.
Voilà.
Oui, la rareté, et puis ça fait augmenter les prix. Donc ça fait l'affaire des propriétaires. Maintenant, ce que dit Véronique Vidal dans cet article, c'est qu'elle ne pense pas qu'il y ait une corrélation entre l'augmentation des taux qui a limité beaucoup les capacités d'emprunt des gens qui n'ont pas l'argent liquide pour acheter comme ça à cash. Elle dit qu'il y a eu une crise aux États-Unis. Attendez que je retrouve précisément l'article. Aux États-Unis, le prix de l'immobilier augmente alors que les taux sont plus élevés. En France, ils baissent. Bon, donc elle dit que ce n'est pas à cause de ça. Il faut quand même se rappeler que le gouvernement a fait pondre des textes sur les logements qu'on ne pouvait plus louer pour des questions de classement énergétique. Donc, ces logements que les propriétaires ne peuvent plus louer pour se faire de l'argent, ils sont remis sur le marché. Ça peut faire plonger, les prix. Enfin, il y a très peu de gens qui arrivent à acheter. Il y a une offre qui se tarit, si j'ai bien compris. Enfin, bon.
Mais c'est quand même un scandale que...
Radio Libertaire 89.4 de Poste Non Radio Show, et à l'instant c'était la musicienne anglaise Kayla Painter. Kayla Painter qui est au sommaire du magazine tout aussi anglais Moon Building, c'est un magazine musical. Également au sommaire de la compilation qui va avec, c'est pour ça que nous avons pu l'écouter au sommaire aussi. Alors Kayla Painter, il y a un très très long article qui lui est consacré avec une interview. Et elle s'intéresse, dit-elle. Alors ce que j'ai retenu de quelques bribes que j'ai lues de l'interview, qu'elle s'intéresse en fait à l'état de nos connaissances, par exemple à l'état de nos connaissances sur l'univers, et à l'idée de l'état de nos connaissances que l'on se fait. Et donc elle en vient à penser qu'en fait on sait pas grand chose, voilà. Et au sommaire de ce magazine, excusez-moi, mais j'ai le ventilo là qui me... au sommaire également de ce magazine, je cherche son nom, un interview de Paul Gorsman. Alors... les personnes qui ont créé, la personne qui a créé, je crois, oui, ils sont plusieurs, ils sont deux, le magazine Moon Building, bossait auparavant dans The Wire, chez The Wire. C'est quelqu'un qui est dans le journalisme musical depuis toujours. Il a fait partie du NME et aussi du New Musical Express. Et donc, il interroge Paul Gorman. Alors, en tête, il dit qu'écrire sur... la musique, c'est comme la danse pour l'architecture, quoi. Que c'est un peu décalé comme idée. Et Paul Gorman, lui, parle du déclin, en fait, de la presse musicale. Alors, il parle de la presse musicale anglaise et de la presse musicale américaine, qui ont eu leur apogée des années 50 jusqu'à la fin des années 70 et un peu dans les années 80, et où par exemple il y avait beaucoup de journaux musicaux en Angleterre, le Melody Maker, Sounds, qui ont disparu. Il y avait également le New Musical Express qui existe encore, et il dit par exemple que dans les années 70, rien que les 5 magazines musicaux principaux pouvait vendre jusqu'à 1 million d'exemplaires par semaine.
C'est considérable.
Considérable.
Et ça concernait l'ensemble des magazines
C'était l'ensemble des magazines, le Musical Express par exemple, le Melody Maker, Sounds, Smash Hit. Alors je ne sais pas quel est le cinquième, mais voilà, que ça pouvait atteindre jusqu'à 1 million d'exemplaires par semaine, hein, pas par mois, et que s'il y avait une énorme consommation de ce genre de presse par la jeunesse. Et évidemment, dans son analyse, lui, il dit que la jeunesse, elle a complètement basculé vers le numérique, elle a basculé vers Internet, en fait, hein. Et pour énormément de médias, que ce soit pour la presse, que ce soit pour la radio, que ce soit pour la télé, la jeunesse, elle a basculé complètement chez TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, etc., etc., quoi.
Oui, elle ne lit plus les magazines musicaux.
Alors, bah, évidemment, il y a eu pas mal de disparitions. Alors, il parle également des magazines américains, Rolling Stone, Cream, Crawdaddy, il y en a eu d'autres qui ont eu... très peu de numéros, il y a eu des très très longues carrières, plutôt très courtes. Et par exemple, Rolling Stone, au sommet de sa gloire dans les années 90, pouvait vendre 1,5 million de copies par mois. 1,5 million, alors que là, par exemple, il atteint péniblement les 50 000 exemplaires avec un magazine dont la couverture est le chanteur Harry Styles, mm-hmm. qui est très connu, hein, mm-hmm. pour ceux qui ne le savent pas.
Bah oui. 50 000 exemplaires seulement.
Péniblement, alors qu'à une époque, dans les années 90, Rolling Stone faisait 1,5 million de ventes.
D'accord.
Par mois. Par exemple, Smash Hits, qui est un magazine anglais, qui, je ne sais pas s'il existe encore, lui pouvait atteindre les 600 000 exemplaires oui. par semaine. Mmh. Donc c'était un marché énorme, le magazine Vibe. Non, Smash Hits pouvait vendre dans les années 80, à leur sommet, pouvait vendre 1 million d'exemplaires. C'est le magazine Vibe, que je ne connais pas, qui lui pouvait vendre 600 000 copies. Mmh. Donc c'était un énorme marché. Donc il dit, et puis en résumé, il dit bon bah cette presse a connu son heure de gloire, elle a fait son temps, c'est comme ça. Maintenant il y a autre chose, on est passé à autre chose. Il y a toujours de la presse musicale. Elle est certes moins lue, elle est moins dans les préoccupations des consommateurs et des amateurs et des amoureux de musique. Mais elle existe encore. Moi, par exemple, j'ai toujours été un grand amateur de musique et d'un amoureux de la musique. J'ai beaucoup acheté de presse, donc je continue à en acheter. Mais il y a un déclin. Mais il dit bon, bah voilà.
Puis en plus, il y a des frais de douane, si j'ai bien compris.
Alors maintenant, il y a des frais de douane. Alors je n'ai pas compris pour quel pourquoi et comment je reçois des paquets d'Angleterre où par exemple j'ai des frais de douane sur certains et pas d'autres. Je ne comprends pas comment. Enfin, j'ai eu le cas là récemment avec trois colis, j'en ai eu deux où j'ai eu des frais de douane, c'est-à-dire qu'en plus de payer les disques, en plus de payer le port, donc tu prends quand même des frais de port assez chers pour que le truc t'arrive. Le colis t'arrive quand même, donc pour le sécuriser, tu vas prendre par exemple le tarif à 20 euros. Donc déjà, tu as payé le disque 20 euros, tu payes 20 euros de frais de port, et là, le facteur sonne chez toi et te demande 10 euros supplémentaires. En gros, tu as payé un truc de 20 euros, tu l'as payé 50. Quoi.
Oui.
Donc, je n'ai pas compris comment ça fonctionne. J'en ai eu deux où j'ai dû rallonger 10 euros, et le troisième, j'ai rien pu rallonger du tout. Donc je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas pourquoi j'ai des frais de douane sur certains et pas d'autres. Donc voilà, il dit que c'est comme ça, que ça a eu son heure de gloire, que ça ne l'a plus. On voit que beaucoup de magazines, par exemple en France, se sont arrêtés. D-Side, Elegy dans les années 2000, Trax récemment. Il n'y a pas foncièrement de création de nouveaux magazines, si peut-être dans le métal. Mais voilà, donc ça, c'est au sommaire de ce petit magazine avec une esthétique très jolie, c'est très c'est sympa, c'est un petit format. Il y a plein d'autres artistes au sommaire. Qui d'autres? Ben voilà, j'ai un peu tout dit, je pourrais non, bah voilà, parce que j'ai pas encore lu complètement, donc voilà pour Kyla Painter et le magazine Moon Building. Falling of our trees, the leaves, may they soon influence the hail. de Poste, non-radio show, Radio Libertaire. Alors, oui, il y a eu Dot Allison pour l'effet miroir avec le magazine Moon Building. C'était le titre Moonflowers. Et à l'instant, c'était les AM Boys, Distance Decay. Alors, c'est pas pour faire le snob, hein. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai plus vraiment de magazines musicaux français préférés. Je vous ai déjà dit, je vous ai parlé, déjà parlé des Arrocs qui étaient plus dans mes favoris. Mm-hmm. C'est maintenant mes magazines, les magazines que je préfère, que j'aime bien, c'est des magazines anglais, c'est The Wire, c'est Electronic Sound et Uncut. Dans trois styles différents, et là maintenant Moon Building que je viens de découvrir. Voilà. Alors, en passant à autre chose, pourquoi est-ce que je vous ai donné à regarder la bande dessinée qui est sur la table du studio? Cette bande dessinée,
oui, on l'a vu, oui.
C'est une bande dessinée qui accompagne une compilation de Bernard Lavilliers. Oui. L'or des fous, c'est une compilation qui est parue en 2000 chez Universal. Musique, projets spéciaux. C'est bien marqué sur la couverture du CD. Universal, musique, projets spéciaux. Et ce projet spécial, en fait, c'est cette compilation accompagnée d'une bande dessinée, en fait, d'un recueil de bandes dessinées, voilà, où chaque titre, les 13 titres de la compilation, sont chacun illustrés en images, en fait, dessinés par un dessinateur différent.
C'est ça.
Et je me disais bien que je devais avoir un de ces projets spéciaux chez moi, quand on a parlé il y a quelques semaines de cette histoire de sommes allouées à des artistes confirmés pour des projets spéciaux d'aide à la création. Ça avait été épinglé, si je me souviens bien, si je ne sais pas si vous vous souvenez, par la Cour des comptes. C'était un article du Canard, et puis d'autres l'avaient repris par la suite, et que c'était étonné de telles sommes allouées déjà à des labels aussi gros financièrement et pesant aussi lourd que Universal, par exemple. On en a l'exemple avec cette bande dessinée et cette compilation de Lavilliers et à des artistes qui étaient, bon, en 2000, Bernard Lavilliers était déjà quelqu'un d'extrêmement connu, hein. Bernard Lavilliers, il est là depuis les années 70, si je ne m'abuse. Donc on peut pas dire c'est pas un petit jeune, hein. Il est pas né de la dernière pluie. Donc voilà, c'était pour illustrer cette histoire de projet spéciaux. On va s'écouter d'ailleurs un titre de la compilation. Et il me semble qu'il y avait deux organismes mis en cause. Le CSPP, la Société Civile des Producteurs Phonographiques, si je ne m'abuse. Est-ce que vous vous rappelez? Je ne sais plus. Moi, je ne m'en rappelle plus non plus. Et il y avait la SPPF, la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France. Et justement, on va faire un petit quiz. Ça va nous détendre des très longs articles de notre réalité déprimante, généreusement partagée par Yves. Dans un hors-série qui est paru en novembre 2022, c'était à l'occasion de... Je retrouve la page... du centenaire du SNEP, justement.
National de l'édition phonographique.
Il y avait une exposition au musée de l'herbe sur les musiques enregistrées, les machines enregistreuses, etc. Et donc, il y a une timeline. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire... Alors, je vais faire référence ici à votre grand âge. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quelle année La norme du 78 tours est adoptée par les fabricants.
Oh, ça date dans les années 30, ça. Ah, c'est bah, dans les années 30, non, 20 suffit. Et 30.
Non, les années 30, ça suffit. C'est, ah, c'est au début, c'est au début des années 30, 1930, là, c'est que les fabricants de disques adoptent tous en même temps la norme du 78 tours. Ok, ça c'est pour Serge. Alors, je croyais que nos amis, les ancêtres, allaient nous sauter sur la solution. Alors, en quel...
Putain, il fait des interro écrites pendant les...
Attention, on se concentre. En quelle année, je retrouve, en quelle année sont commercialisées les premières cassettes audio?
Dans les années 60.
Non, plus
il
tard.
Me faut, non, non, il me faut une date précise.
Alors
70.
Non.
65.
Non.
Non, plus tard.
Plutôt.
Non,
plutôt encore, 62.
Non,
non,
plus
je vais vous dire ça, ça serait 66. Eh ben, en 66.
Plutôt.
Eh ben, 1964.
Plutôt.
En 1963.
Bravo, c'était par défaut que tu l'as eu, celle-là.
Ouais. C'est 63, c'est possible.
Ok.
Enfin, j'étais dans ces
zones. J'avais une cassette qui datait de 1965 à peu près. Et qui était comme ça et je me souviens que souvent donc comme les magnétophones à cassette commençaient à apparaître on livrait par exemple les magnétophones, enfin c'était pas les magnétophones à cassette, c'était les lecteurs de cassette, on appelait ça aussi des cassettophones carrément, ouais, à l'époque. Et donc, c'est le cassettophone était fourni avec deux ou trois cassettes, voilà, pour écouter. Et je me souviens que moi, c'était ma grande sœur qui avait ce cassettophone. Et il y avait une cassette d'Enrico Macias, une cassette de Paul Moria, et puis voilà, donc des choses comme ça, quoi. C'était nouveau et c'était vraiment très très bien. Et ça reste de très bonne qualité, très très bonne qualité. Je sais que j'ai la cassette encore chez moi et elle est de très 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 bonne qualité sonore.
Ok.
Moi j'ai dû l'égarer, ma cassette.
De Enrico Macias.
Où est passée ma cassette? Ma cassette, où est passée ma cassette? Bon, laissons tomber.
Alors, j'ai alors une autre date. En quelle année a été lancé le Walkman?
Ah, ah bah là c'est un peu plus facile.
Ah, je sais répondre. Plus tard.
Non, alors.
Comment non?
Alors le Walkman. Est-ce que le Walkman 4, c'est dans 1900. Je pense que c'est 1980.
Plutôt.
Ah oui. Ah oui.
70.
Plus
non,
tard.
75.
Plus tard.
77.
Plus tard.
78.
Ah, oh, plus tard.
Ah bah,
79 alors.
Bah voilà, non, mais les mecs, faites un effort. Vous trouvez les trucs par défaut.
Ah oui, c'est moche.
Je suis désolé.
Alors,
on a essayé de procéder par dichotomie, mais il y a des fois où ça marche assez lentement. Hein,
c'est, quelle année le premier fichier audio numérique MP3 a fait son apparition?
Alors, je crois que ça devait être en 1987, 1989 ou 1990.
Plus tard.
Ah bon, 1995.
Bravo, pile poil. Bien, super. Allez, on s'en fait quand même une autre avant d'écouter Berne. Alors, je dois préciser que donc cette compile est sortie dans les années 2000. Mmh. Je l'ai achetée l'année dernière dans une solderie. Donc 22 ans après, j'ai acheté ce truc dans une solderie, voilà.
Voilà.
Il en restait un stock.
Qu'est-ce que je voulais dire, moi, si j'ai deux minutes? Je voulais dire que les articles que j'ai vus tout à l'heure, c'est des propos recueillis par Emmeline Gazi et Véronique Crochon du Monde.
Voilà, oui, d'accord. Donc, tu as une dernière question à nous poser, Henrik.
Alors, oui, alors, première sortie de CD.
Ah, alors, ça, c'est...
Concentre-toi bien, il me faut la date exacte.
La date ou l'année?
L'année exacte.
L'année exacte. Alors, moi j'étais... Je vais trouver. Donc c'était 1985.
Plutôt.
Ah. Eh ben, oui, mais le temps qu'il soit commercialisé et tout ça...
L'année de sortie des premiers CD.
Eh ben, 1983.
Plutôt.
Ah. Mais ça dépend, ils étaient expérimentaux à l'époque, peut-être.
C'était en 1982.
Ah, voilà.
Et alors... Non, je vais pas vous demander donc, quelle usine de pressage ça a été fait dans quelle ville.
Non, je crois que c'est
c'est
Philips qui a fait ça.
Non, c'est Polygram en Allemagne.
Ah.
À Hanovre.
Ah.
Bon, allez, je vous en... Alors, attendez, je regarde si j'en trouve une dernière. Une dernière qui soit... Alors, une dernière. En quelle année sort le tout premier 45 tours au monde?
1950. Non.
Oh, presque.
Ah. Même 1951.
Non, c'est juste avant.
49.
C'était...
Ça vous donne le droit d'écouter un titre...
Donc ça fait 74 ans, précisément.
Ça vous donne le droit d'écouter un titre...
De Bernard
Lavilliers.
C'est vraiment tropical. Le reggae dans la rue, calypso dans la salle. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne à Nation. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. La beauté, la violence, posée sur la balance. Affamé comme moi, affamé comme moi. Affamé comme moi. Kingston, Kilson, quand le soleil descend. J'écoute à la radio une chanson d'amour qui dit qu'il n'y a qu'un Dieu, un pays, trois couleurs. 12 tribus dans la Bible, des coups de flingue dans la cible. Des blancs pour le gâteau, 500 000 au ghetto, 1 million dans la ville qui brûle en plein soleil, 2 millions dans une île juste en dessous du ciel. Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi. Kingston, Kingston, quand le soleil descend. Juste entre les oreilles, c'est fini pour la fête, fini pour le soleil. Plus j'ai faim, plus je fume, plus je fume, plus je crois. Le qui m'a bâti doit fumer comme moi. Je suis beau comme lui, je danse comme un fou. Le lion des Rastas rôde dans les villas. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Quand le soleil descend. Attends. Cadenas sur les grilles des familles d'en haut. La brume qui scintille au-dessus du ghetto. À Trenchtown ça bouge. T'arrêtes pas au feu rouge. À Tivoli Garden, no good man. La lumière qui saute, Kingston est dans le noir.
Hooligan Man qui rôde, transformé en passoire. Et l'amour qui s'en va, affamé comme moi. Affamé comme moi, hey. Affamé comme moi, hey. Affamé comme moi. Kingston, Kingston, quand le soleil descend.
It was the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll. A lot of soul to sing. And then the loud sound, it seemed to fade, hey, hey. Came back like a slow voice on a wave of fade, hey, hey. That was no DJ, that was Hazy Cuz. Locked up in pride.
Radio Libertaire. Le Poznan Radio Show.
89.4.
Ouais, super. Alors, minuit 3 sur l'antenne de Libertaire. Nous sommes encore là, pas trop écrasés quand même par la chaleur. Je suppose qu'énormément de gens sont en train de mater là, ou ont maté là. Là, je crois que c'était le football, non?
Non, c'était le rugby.
Qu'est-ce que je raconte?
Le premier match de la Coupe du Monde de rugby.
Tiens.
Oui. Non, c'est bon. Et donc voilà.
Ouais.
On ne sait pas qui a gagné, puisqu'on ne sait pas, puisqu'on est en studio, et puis...
À vrai dire, on s'en fout.
Voilà. Il y a suffisamment de bars avec des écrans et tout ça. Donc voilà, on ne sait pas qui a gagné.
Ah, il y a eu la... Enfin bref, j'étais distrait, là. Il y a eu la lumière de l'entrée qui s'est... Mais on ne sait pas qui c'est, donc...
On peut le savoir. Oui, c'est simple, il suffit d'allumer un portable.
Ouais, oui, mais je sais pas qui c'est, donc j'ai pas super envie d'aller ouvrir la porte.
Pourquoi donc voilà.
Ah ouais. Alors ok, on revient là. J'étais surpris quoi.
Ouais.
Donc oui, je pense. Ouais. Non. En fait, j'allais dire que beaucoup d'auditeurs. Enfin. Des auditeurs, pourquoi beaucoup? C'était probablement endormi, écrasé par la chaleur, à moins que ça soit l'inverse, et qui a du mal à trouver le.